Non, il paraît que la gauche a gagné hier. Mais sur quoi? Sur quel discours politique alternatif concernant les points que je viens de signaler? En quoi, sur la question du logement, en quoi, sur la question des banlieues et des cités, et de la façon dont on traite la jeunesse française aujourd'hui, en quoi, sur la question des sans-papiers, en quoi, sur la question de la politique sécuritaire en général, y a-t-il eu une levée de bouclier à discours politique alternatif, et je dirais même y compris la possibilité que dans les villes gagnées par la gauche, avec tous les guillemets que vous voulez, la politique sur ces points-là soit réellement différente? Il y a des nuances, bien sûr, j'exagère. Il y a quelques villes peut-être où ça sera différent. Mais je ne suis pas complètement tranquille. Dans la ville où j'habite, qui a une longue tradition de résistance sur ces questions-là, où les sans-papiers sont reconnus comme des interlocuteurs en tant que tels, il faut dire qu'il y en a quelques 3500, 4000 dans la ville, hein, où les squatteurs, ils sont à peu près aussi nombreux, sont reconnus comme des interlocuteurs en tant que tels, le maire sortant, qui va certainement être réélu la semaine prochaine, s'est laissé tenter quand même, il y a deux mois, par un projet de mise en place de vidéosurveillance dans la ville. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif sur tout, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr pourquoi? Parce que n'y a pas une grille de lecture politique intellectuelle de la part de cette gauche sur ces questions-là qui envoie à la fois la réalité, la centralité et le caractère dynamique et positif et sur lesquels pourrait éventuellement se construire peut-être un autre rêve, une autre représentation de l'avenir et d'un changement politique. Ces points-là ont été absents complètement de la campagne politique des élections locales qui viennent de se passer. Ces points-là ne sont pas mis au crédit d'un vote sanction s'il y a un vote sanction. Personne n'a pris la peine politique de donner à une sanction éventuelle électorale un contenu qui porte sur ces questions-là. Un exemple que nous avons tous vécu, et moi qui m'a frappé, mais alors à un point, le 18 février 2008, au matin, accompagné de je ne sais pas combien de journalistes, un millier de policiers investissent la ville de Villiers-le-Bel pour organiser l'arrestation des coupables de l'émeute du 27 novembre. Sur la foi de dénonciations anonymes, rémunérées, et avec un grand renfort de moyens techniques qui ne sont aujourd'hui réservés, qui n'étaient jusqu'ici réservés qu'à la grande criminalité, c'est-à-dire qu'on ramasse des bouteilles de bière, on fait des analyses ADN, etc. Peu importe, c'est pas ça mon problème. On en a parlé. Il y a eu un débat. Il y a eu, comme on dit, une polémique. Sur ces questions-là. Et sur quelles questions? Il y a eu une polémique sur est-ce que c'était bien de mettre autant de journalistes là-dedans? Est-ce que cette médiatisation n'était pas outrancière? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise image de la banlieue, etc., etc. Mais personne, je dis bien personne, n'a posé la question, puisqu'il s'agissait d'une enquête, d'une sorte de répression, d'une criminalisation de l'émeute. L'émeute était un crime qu'il fallait réprimer. Personne n'a posé la question, et où en est l'enquête sur la mort des deux jeunes? Parce que s'il y a eu deux morts, c'est eux. personne n'a prononcé le nom de Mouchim et Narami. On s'en souvient même plus. On recommence exactement comme en 2005. Voilà. Donc, c'était une longue introduction pour dire voilà un peu le point où l'on en est. On a une gauche qui est à côté de la plaque réelle sociale. Donc, sur. J'ai une heure, hein.
Ah oui.
Bon, d'accord. Je pense que je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais à l'évidence, si on reprend le discours de la gauche, et je dis bien de toute la gauche, quand je dis la gauche, je vais, même si c'est un peu limite, depuis la droite du PS jusqu'à la Ligue communiste révolutionnaire. Qui a eu sur les émeutes de 2005 des analyses un peu bizarres et qui présente, y compris dans des villes très populaires et très métissées, des listes électorales municipales qui sont très blanches. Bon. Donc, la gauche en général a regardé la décomposition de cette composition dont je vous parlais tout à l'heure depuis 25 ans uniquement comme une décomposition. Et donc, ces nouveaux enjeux, ces nouveaux espaces de tension, ces nouveaux acteurs sont restés dans la pensée politique, institutionnelle, partisane, dominante, comme des empêcheurs de lutter en rond. C'est-à-dire comme des éléments de décomposition qu'il s'agissait de recomposer préalablement un redépart de la bonne vieille lutte de classe, qu'elle soit réformiste ou révolutionnaire. Il faut d'abord le plein emploi et on repartira ensuite dans les luttes. Il faut d'abord le plein emploi et ça ira mieux dans les banlieues. Il faut d'abord la solidarité et le lien social et après, on pourra construire politiquement une alternative. Donc, toujours quelque chose comme une difficulté quand on commence à penser les nouvelles formes de lutte et d'enjeux sociaux comme des difficultés et quand on est une forme de transformation sociale ou qu'on veut l'être, c'est un petit problème. Deuxièmement, elle n'a cessé, et pour la même raison, de penser cette difficulté comme, bien sûr, à côté de l'enjeu réel qui reste l'enjeu du travail, l'enjeu social au sens classique du terme. Le résultat, devant 25 ans de politique de la ville, devant 25 ans de raccommodage, dans une logique où la droite et la gauche se sont passés le bâton alternativement, sans changer grand-chose, sinon éventuellement des enveloppes budgétaires, sur lesquelles il y avait à peu près un consensus. Eh bien, l'idée que revenir à l'ordre, ça commence, ça se termine, et il n'y a peut-être pas d'autre solution que par une politique répressive, ça finit par faire consensus. Une fois qu'on a tout essayé, qu'on est uniquement dans le raccommodage, et que le raccommodage ne fonctionne pas, on passe à la politique du bâton. Et la politique du bâton et le tournant répressif de la politique de la ville, c'est pas sous un gouvernement de droite que ça a commencé. La première grande réunion de la politique de la ville en 1997, après la victoire de la gauche, a été présidée par le nouveau ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement. La tolérance zéro a été inventée à ce moment-là. Donc, on est sur un consensus sécuritaire. On cesse de voir ces acteurs comme des acteurs, et du coup, on cesse de voir les communautés de lutte, les communautés de représentation politique possibles sur lesquelles on pourrait s'appuyer, sur lesquelles on pourrait construire des énoncés. Je pense que c'est à ce point de difficulté-là, très précisément, qu'on passe d'une situation schizophrénique avec la gauche politique qui parle de quelque chose et les gens qui vivent autre chose, à la situation de l'émeute. Sur ce point-là, c'est-à-dire sur l'incapacité de la part de ceux qui ont la place, la légitimité, l'autorité, de parler, d'avoir des énoncés symboliques et politiques sur le social, leur incapacité à avoir des énoncés sur la vie des gens dont je vous parle. C'est très évidemment ça qui a déclenché l'émeute de 2005. Reprenons, j'aime beaucoup, je me la repasse, la chronologie du départ des événements de 2005. Au départ, deux jeunes sont morts de peur. Mais ils avaient peur à juste titre. Jusqu'ils vivent tous les jours. Sont morts de peur à cause de la police. Et là, au lieu qu'il y ait des énoncés et un discours politique global qui énonce un nous parental, par exemple, ce sont nos enfants. On a dit c'est eux. La gauche politique a dit c'est eux. Il faut être solidaire avec eux et non pas c'est nous. Les amis à l'extérieur. Et quand les manifestations de colère ont commencé à faire jour à Clichy et à Montfermeil, le discours de la gauche politique, les actes de la gauche politique ont été des actes de solidarité, ouvrez les guillemets, solidarité républicaine. Il faut d'abord, c'est toujours pareil, rétablir l'ordre pour ensuite réclamer la justice. C'est toujours, il faut d'abord rétablir l'ordre pour ensuite réclamer la justice. Et ce déni de reconnaissance de l'injustice, ce déni de reconnaissance de l'existence, dans une enquête qu'on a faite à ce moment-là, les jeunes disaient, mais on a l'impression que notre vie ne vaut pas celle des autres. C'en est à ce niveau-là. A provoqué une colère où des milliers et des milliers de jeunes d'un bout à l'autre du territoire se sont reconnus et ils ont simplement dit pendant 3 semaines, on est là, on existe, et on vous fait de belles images, on vous montre qu'on est maître du terrain. Mais c'est cette absence d'énoncé, cette absence de mots, on a dit c'est une révolte sans mots. Oui, peut-être. Mais il n'y a pas que les jeunes de l'émeute qui n'avaient pas de mots. La gauche non plus n'avait pas de mots pour parler de ça. S'il y a bien un point d'accord et là-dessus, c'est l'absence de mots. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment appeler ces trucs-là. Moi, je dis des émeutes parce que c'était à l'époque, ça a un peu changé, le mot des jeunes. Mais enfin, en général, ça a été pendant un bout de temps les événements. Comme les événements de 68, les événements d'Algérie, enfin tous les, ce qui se passe, qu'on n'a toujours pas compris, sur lequel on n'arrive pas à s'accorder, sur lequel il n'y a pas de mots. Il y a un manque de mots pour désigner ces événements, ces acteurs, ces luttes et les enjeux de ces luttes. Et bis repetita, 27 novembre 2007, pareil. Parce que, si vous voulez, les petites motos, pour qui vit à Saint-Denis, ou à Villiers-le-Bel, ou ailleurs, dans ces trois-là, on sait qu'il y en a beaucoup, c'est un peu énervant, ils font du bruit, ils traversent les centres commerciaux, enfin, ils font des conneries, quoi. Ça énerve particulièrement la police, ils n'arrivent pas à les coincer. Donc, tout le monde sait, dans ces quartiers-là, que le petit jeu qui consiste à pour suivre des petites motos avec des voitures de police, c'est le jeu habituel. Puis quand il les rattrape, il les pousse un peu par derrière. Ça se fait régulièrement. Donc,